Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Voir qu'il y a autant de monde, ça me choque aussi un peu. Bah, il n'y a pas de changement en fait. Il y a beaucoup plus de monde et pour moi, c'est pas un vrai confinement.
Paris n'est pas sous cloche comme au printemps et les magasins Fnac et Darty ont choisi de rester ouverts. Ce sont les incohérences, les premières du deuxième confinement. Reportage et explications à suivre. La crise sanitaire dans les hôpitaux où l'afflux de malades se poursuit et où des chefs de service reconnaissent qu'ils devront faire des choix difficile entre malades. L'enquête sur l'attentat de Nice, hier soir un homme a été interpellé, soupçonné d'avoir été en contact avec l'assassin. Sur le plan politique, le maire de Nice, Christian Estrosi, demande de modifier la constitution pour mener la guerre. D'autres personnalités de droite vont dans le même sens, c'est-à-dire déroger à l'état de droit, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Invité d'Europe Midi, le paléo-anthropologue et maître de conférence au Collège de France Pascal Pic, il publie « Et l'évolution créa la femme » sur une question étonnamment peu défrichée, la préhistoire des femmes. D'où vient la domination masculine dans les sociétés humaines ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Surprise pour les Parisiens ce matin qui ont mis le nez à la fenêtre au premier jour du deuxième confinement. Des passants, des voitures, des rues nettement plus animées et fréquentées qu'au printemps. C'est un peu moins vrai en région, nous disent nos correspondants. Mais Pierre Herbulot, vu du quartier de Montparnasse où vous vous trouvez, Paris n'a rien d'une ville morte.
Ah non, vous avez le bruit des travaux, les klaxons des voitures et plutôt ce matin, les flots de travailleurs à la sortie des bouches de métro et de RER. Chantal n'a pas franchement l'impression d'être au premier jour d'un confinement national.
Ouais, non, pas vraiment. Ouais. Même dans le train, il y avait du monde.
Est-ce qu'il y a une différence avec le premier jour du premier confinement ?
Ah mais carrément. Enfin, déjà, je venais en voiture, là, j'ai pas osé. Il y avait personne sur la route, personne dans les rues, là, il y a vraiment du monde, quoi.
Elle n'avait d'ailleurs pas d'attestation de déplacement sur elle, comme de nombreux autres Parisiens que j'ai rencontrés ce matin. Emmanuel Macron avait parlé de tolérance les premiers jours. Il semble avoir été pris au mot.
Et si vous êtes parti rue de Rennes, près de Montparnasse, donc Pierre Herbulot, c'est qu'une grande enseigne a choisi de ne pas fermer, de braver l'interdit du confinement, la Fnac. Et Darty, le magasin de produits culturels et d'électroménager, continue ce matin d'accueillir des clients.
Oui, ce qui étonne beaucoup les habitants du quartier, ils ralentissent leur foulée en passant devant l'enseigne, ils s'arrêtent un peu circonspects et parfois poussent la porte du magasin comme Maria. Elle en ressort avec un gros paquet.
Oui, oui, et je suis très très contente parce que déjà qu'on s'ennuie à la maison, donc je suis contente de venir acheter mon lecteur DVD pour pouvoir regarder des films.
Est-ce que c'est un besoin de première nécessité ?
Pour moi, oui, parce que je déprime sinon, c'est pas possible.
C'est ça, le nouveau CD de Francis Cabrel ou le dernier FIFA sur PlayStation. Pas sûr que la justification passe en cas de contrôle de police. Martin, lui, a acheté un livre en culpabilisant, mais pour une autre raison.
Bah, disons que c'est vrai que ça rompt un peu l'égalité entre les commerçants et ça rompt en profit des plus grosses structures, je dirais. J'en ai profité pour acheter un livre que j'aurais pu acheter en bas de chez moi si la librairie avait été ouverte.
Oui, puisqu'avec les petits commerces fermés, la seule alternative, c'est le site marchand Amazon. Alors, entre la peste et le choléra, Julien a fait son choix.
C'est quand même un magasin de proximité et je trouve que c'est quand même un lien social important, alors qu'Amazon, il n'y a rien au niveau humanité.
Mais de l'humanité, Patrick, il y en a aussi derrière les rideaux de fer baissés des deux libraires indépendants fermés à 150 mètres de la Fnac qui se demandent encore comment ils vont payer leur loyer à la fin du mois.
Eh oui, Pierre Herbulot en direct du magasin Fnac de la rue de Rennes à Paris. Emmanuel Duteil, que dit-on du côté de la Fnac ? Quelle justification ?
Eh bien, pour une question de survie ou presque, chez Fnac Darty, on le reconnaît. Amazon a déjà lancé sa machine à promotion. Si on ferme, ils vont tout rafler, me dit-on en interne. Fnac Darty a donc regardé en détail les secteurs autorisés à travailler. Parmi eux, réparation et vente de portables, réparation et vente d'ordinateurs, ou si on regarde ce qui est autorisé chez Darty, la vente d'électroménager. Et c'est pour cela que le groupe a décidé d'ouvrir ses magasins. « Nous n'avons pas demandé d'autorisation, on pense être dans les clous », assure l'entourage de la direction. Alors, quitte à être ouverte, la Fnac va donc vendre tout ce qu'elle a en rayon, c'est-à-dire des livres ou des DVD. Et c'est là notamment que ça fait grincer des dents au moment où on demande aux librairies de rester fermées. On comprend que ce soit dur, mais la grande distribution vend bien des livres, elle aussi. Alors pourquoi pas nous, se défend ce matin la Fnac. Au ministère de l'économie, on ne veut rien dire pour le moment. En tout cas, la FNAC n'est pas la seule à ouvrir. Les opticiens, ouverts seulement en cas d'urgence lors du précédent confinement, sont actuellement ouverts. Idem pour les gros magasins d'électroménager. Boulanger, par exemple, a aussi décidé d'ouvrir ses magasins.
Oui, ça fait beaucoup d'exceptions. Et l'initiative de la FNAC ne peut que raviver un peu plus encore la colère des libraires contraints, eux, de baisser le rideau. Le journaliste et critique littéraire François Bunel lance ce matin une pétition en ligne pour réclamer leur réouverture. En fermant les marchands de livres, la France se prive de son meilleur bataillon pour nous permettre d'affronter l'obscurantisme, écrit-il. Sur le plan sanitaire, le bilan de l'épidémie en France dépasse maintenant les 36 000 morts, dont 250 ces dernières 24 heures, 400 nouvelles admissions en réanimation, où le nombre de malades approche les 3 200. Victor Dolande, face à l'ampleur de la vague et à la nécessité cette fois de continuer à soigner des malades non-Covid, les médecins hospitaliers admettent qu'ils devront faire des choix éthique.
Oui, ils ne l'ont pas fait lors de la première vague. Ils n'y ont pas été contraints parce que seules deux régions étaient touchées à l'époque. L'Île-de-France et le Grand Est ont pu bénéficier de renforts des autres régions. Cette fois, ça ne sera pas le cas. Et avec cette saturation du système hospitalier qui arrive, la perspective du choix hante déjà de nombreux médecins comme Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Le risque, c'est qu'on soit amené à être obligé de choisir les patients qui pourront bénéficier de la réanimation. Malheureusement, vu la dynamique de l'épidémie, pour les 2-3 semaines qui viennent, c'est-à-dire avant qu'on ait l'effet bénéfique du confinement, j'ai peur qu'on soit obligé à un moment de faire des choix qui poseront des problèmes sur le plan éthique, sur le plan sociétal et sur le plan humain.
Mais les médecins feront tout pour éviter ces choix dramatiques. Les hôpitaux vont d'abord rouvrir tous les lits fermés par manque de personnel. Il y en aurait environ 400 dans tout le pays. On déprogrammera ensuite des opérations non urgentes qui a déjà commencé dans presque toutes les régions. Ensuite, il faudra pousser les murs, transformer un service de pédiatrie ou de chirurgie, par exemple, en réanimation. On rappellera aussi la réserve sanitaire, les médecins à la retraite, les étudiants en médecine. Enfin, l'armée pourrait prêter main forte aux hôpitaux, comme lors de la dernière vague des hôpitaux de campagne, comme celui qui avait été installé à Mulhouse, pourrait voir le jour très vite. L'armée est prête, c'est le gouvernement désormais qui doit l'exiger dans les régions où ce sera nécessaire.
Victor Dolande, merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, les suites de l'attentat de Nice, l'enquête et le débat sur l'état de droit.
Europe Midi. Patrick Cohen.
L'assassin de Nice n'est pas tiré d'affaire, il est à l'hôpital, pronostic réservé. Les policiers municipaux qui l'ont stoppé hier après son massacre ont tiré sur lui 14 coups de feu. Gladys Laffitte, que sait-on à présent de ce Tunisien de 21 ans?
Alors on sait qu'il est arrivé en France courant octobre sans faire de demande d'asile. Il a débarqué sur l'île italienne de Lampedusa le 20 septembre parmi des dizaines de bateaux de fortune, soit 3 semaines après l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 et la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. L'enquête devra démontrer si c'est l'élément déclencheur de son départ vers la France. On sait aussi qu'il est entré sur le continent via Bari en Italie toujours le 9 octobre. Puis a été laissé libre par les autorités italiennes malgré une interdiction de quitter leur territoire. Qu'a-t-il fait après jusqu'à son entrée en gare de Nice le matin de l'attaque? Est-il parti de Tunisie avec l'idée précise d'attaquer la France? Avait-il des complices? Les enquêteurs vont devoir retracer les contacts du tueur, notamment grâce à ses 2 téléphones. Ils ont été retrouvés dans ses affaires, dans l'église à Nice, avec un Coran et 2 autres couteaux non utilisés. La police a en tout cas trouvé la trace de celui qui serait son dernier contact physique. La veille de l'attaque à Nice, repéré grâce à la vidéosurveillance, un homme de 47 ans, actuellement en garde à vue, sans que l'on ne sache pour le moment la teneur de leur échange.
Gladys Laffitte, Nice sous le choc qui réclame justice. Nous écouterons à 13h le reportage de Nathalie Chevance. Sur le plan politique, le maire de Nice, Christian Estrosi, demande qu'on modifie la constitution pour mener la guerre. Et il n'est pas le seul à droite à envisager qu'on sorte de l'état de droit et des principes dont le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État sont les gardiens. Le paradoxe, c'est que le Rassemblement national et Marine Le Pen ne vont pas aussi loin, Aurélie Herbemont.
Effectivement, Patrick, si Marine Le Pen appelle à une législation de guerre, elle estime qu'il faut rester dans l'état de droit, ce qui n'est pas le cas chez certains LR qui proposent d'aller beaucoup plus loin. Éric Ciotti, député de Nice, rappelons-le, réclame un Guantanamo à la française, en clair une rétention administrative des fichiers S potentiellement dangereux avant qu'ils commettent un crime, sauf que c'est impossible à mettre en œuvre. Le Conseil d'État l'a dit dès 2015. Alors pour lutter contre ce qu'il appelle l'islamo-fascisme, Christian Estrosi demande, vous le disiez, à changer la Constitution.
Si on nous impose aujourd'hui de respecter des points de la Constitution qui ne sont pas adaptés à pouvoir mener la guerre en respectant la Constitution, eh bien, il faut modifier la Constitution. Nous savons que nous ne pourrons pas gagner la guerre contre cet ennemi avec les lois de la paix.
La pression sur l'exécutif, qui est prêt à des mesures renforcées dans le cadre de la loi contre le séparatisme prévue pour le mois de décembre, mais pas question de prendre des distances avec l'état de droit. Un conseiller dénonce la surenchère de LR et leur politique politicienne, preuve selon lui qu'ils ne sont pas aux manettes depuis longtemps.
Aurélie Herbemont. Un coup d'œil sur le temps, Valérie Darmon, grisaille au nord, soleil et douceur au sud.
Effectivement, grand soleil de la vallée de la Garonne au Poitou, dans les vallées du Massif central, sur les Alpes du Nord et du Val de Saône au Lyonnais, jusqu'en Midi-Pyrénées et bord de la Méditerranée. Sur la moitié nord, de la Bretagne aux frontières du Nord et vers l'Alsace, la grisaille de ce matin ne se morcelle pas, il va même pleuvioter le long de la Manche. Mais vous profitez déjà de belles éclaircies du Val-de-Loire à la Bourgogne. Et vous le disiez, grande douceur. Vos thermomètres affichent 13 à 16 degrés sur l'Est, 16 à 18 dans le Nord-Ouest, 18 à 22 sur la moitié Sud, avec des pointes jusqu'à 25 à Nîmes, Montpellier ou Perpignan.
Merci